m'a demandé de parler d'un sujet qui est un peu difficile, même si on le connaît et il n'y a pas une façon de parler du pardon. Il y a 1000 façons de parler du pardon. Et c'est pas en 50 minutes qu'on va épuiser le sujet du pardon. Tout le monde dit que c'est une belle chose, le pardon. Jusqu'au moment où il faut pardonner. Nous sommes tous dans des relations, les uns avec les autres. Et je pense, quand j'ai préparé ce sujet, j'ai un fardeau sur mon cœur. C'est nos familles, nos relations de couple, nos relations avec nos enfants. Si nous allons mal, l'Église va aller mal. Nous avons aussi des relations dans l'Église, dans l'Assemblée locale. Au sein, nous sommes des vieilles assemblées quand même. Ça fait très longtemps, je ne sais pas même si je me souviens d'une fois, où avant de rompre le pain, j'ai vu quelqu'un aller vers quelqu'un d'autre pour lui demander pardon. Alors que la parole est claire. Si quelqu'un a quelque chose contre son frère et qu'il offre son don, qu'il laisse son don et qu'il aille le voir. Vous vous rappelez de quelqu'un ? C'est quand la dernière fois que ça s'est passé, qu'on a pleuré sur notre péché contre l'autre ? Je dis que l'heure est grave parce que le pardon, on va le voir, est un mouvement, c'est un trajet, c'est un chemin hautement spirituel. C'est pas juste la relation entre deux personnes. C'est pas juste la relation de Dieu et la mienne. On va en parler de tout cela. Mais il s'agit de la gloire de Dieu que l'Assemblée, que l'Église a, ou plutôt que la destinée de l'Église a apporté de la gloire à Dieu, devant qui ? Devant les puissances spirituelles, les bonnes et les mauvaises. On n'est pas juste dans un lieu physique, une réalité même de relation. On est dans une réalité qui nous dépasse, cosmique. Et un des mandats de l'Église, c'est de faire connaître aux puissances spirituelles, les autorités, comme dit l'apôtre Paul, la sagesse variée de Dieu. Et on ne peut pas imaginer qu'on puisse présenter et témoigner de la sagesse variée de Dieu si on est en pétard les uns avec les autres. Excusez-moi, je vais parler clair. Donc on va parler ce soir, on va parler, bien sûr, on va parler du pardon. Je voudrais d'abord parler de l'offense. Et puis, après, on parlera du chemin du pardon. Et ensuite, on va parler de la pratique du pardon. Pardonner, selon le dictionnaire, c'est accorder la rémission d'une faute. C'est renoncer à punir. Le pardon, c'est donc une essence morale. Et d'essence morale. Il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas une conscience de faute. C'est-à-dire de transgression en dehors d'une relation. Le pardon est inhumain. Le monde parle du pardon, c'est pas ce que ça veut dire. Il y a bien cette notion de passer au-dessus de quelque chose. Mais c'est Dieu qui a inventé le pardon. Pour des actes, continuez, impardonnables. Si vous trouvez une excuse à ce que vous avez fait contre Dieu, pas besoin de pardon. Puisque vous êtes excusé vous-même. La nature humaine ne connaît pas le pardon. Voudrait bien, mais les psychologues parlent de pardon sans savoir de quoi ils parlent. Parce que quelque part, il faut passer par-dessus la transgression. Pourquoi ? Parce que le non-pardon est un chemin de mort. Et le non-pardon, on va le voir, nous ramène à des bourreaux intérieurs. Des pensées qui nous tourmentent, jusqu'à nous tuer notre vie intérieure, jusqu'à et qui va avoir des ramifications. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Par contre, la justice, ça c'est inscrit dans nos gènes. Les petits enfants, quand vous les grondez que c'était pas de sa faute, c'est à votre petit-fils ou à votre enfant, c'est pas de sa faute, il va vous dire, c'est pas juste. On a la notion de justice. Avec cette idée que se faire justice à soi-même, c'est tout à fait naturel. Je voudrais d'abord parler de l'offense à Dieu. Le pardon est nécessaire justement là où il y a offense, c'est-à-dire injure, un affront. Et on va voir que le pardon et l'offense sont dans une relation très étroite. Offenser, c'est heurter. Offenser, c'est blesser. C'est froisser quelqu'un. Et avec le même terme, l'offense est employée à la fois pour nos relations avec Dieu et aussi dans nos relations les uns avec les autres. Ce qui va donc souligner le caractère qui est grave de l'offense et de l'importance du pardon. Regardez Matthieu chapitre 6. La prière. Matthieu chapitre 6. On va juste lire la prière du Seigneur ou des disciples comme vous voulez. Verset 9. Vous donc priez ainsi, deux points. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, et là le verset 12, remets-nous nos dettes. À qui on demande ça? À Dieu. Nos dettes vis-à-vis de qui? Comme nous aussi, merci beaucoup. Comme nous aussi, nous remettons à nos débiteurs. On va continuer. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si... Là, ça va être un problème théologique tout à l'heure. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Et il me semble que pour le Seigneur Jésus-Christ, le pardon, c'est primordial. C'est primordial. Je disais que l'offense donc est employée à la fois pour nos relations avec Dieu et celle pour notre prochain. Et ça va donc souligner la gravité, le caractère grave de l'offense. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une offense. Une offense, c'est une blessure. C'est une femme qui dit « Tu m'as trompé », dit-elle à son mari. « Je ne peux plus te faire confiance. J'ai mal, j'ai très mal. » Ça, c'est une blessure. Tromper sa femme, c'est une blessure. Tromper son mari, la même chose. Une femme est venue me voir une fois et dit, Bertrand, mon mari, les coups que mon mari me donnait, ça me faisait mal physiquement. Mais ce qu'il disait à mon sujet, ça, je m'en souviens jusqu'à maintenant. Le dénigrement, la dévalorisation, la non-acceptation, le rejet, l'insécurité, ça ne s'efface pas. Pourtant, il m'avait promis de m'aimer et de me protéger, et il avait promis devant Dieu. Cette blessure, elle est difficile à définir. Mais chacun d'entre nous, nous avons pu un jour ou l'autre ressentir cette blessure dans notre vie avec des personnes qui étaient des proches et des personnes que nous avons estimées. L'intensité de la blessure va varier, évidemment, non seulement avec la nature de l'offense, mais aussi les caractéristiques de la personne qui est offensée. Voilà. Deuxième point, c'est que l'offense est une atteinte à la relation. Dieu nous a créés éminemment relationnels, et par l'offense, j'attaque, j'humilie, je nie mon semblable. Ainsi, l'offense ébranle dans nos fondements, fausse, paralyse, détruit la relation. C'est ça qu'il faut comprendre. La relation, alors que nous sommes appelés à vivre des relations satisfaisantes, bonnes, correctes, parce que le bonheur est dans la relation. Le bonheur n'est pas dans l'avoir, c'est-à-dire la propriété, ni dans le pouvoir. Il est où le bonheur? Dans la relation. Plus vous investissez dans la relation, plus on est heureux. C'est aussi simple que ça. Le grand problème dans nos familles et dans nos couples, c'est qu'on n'a plus le temps, ou bien on ne prend pas le temps. Et on se cache derrière l'idée de ne plus avoir de temps. Mais on a du temps, puisqu'on a du temps pour faire autre chose. Je pense donc que c'est une question de priorité. Mais le bonheur, il est dans la relation. Il est à cultiver la relation dans laquelle nous sommes, mari et femme, ou avec nos enfants. Mais en fait, pourquoi on est ensemble? On est tous d'accord de bien vivre. Et pourtant, l'offense, nous qui désirons vivre dans une bonne relation, pourtant, il y a des offenses. Le péché nous est attaché là. Je nie mon semblable. L'offense va donc fausser les choses, paralyser, détruire la relation. Et la femme, peut-être, va se sentir rejetée comme aide. Et l'homme, à lui-même, eh bien, peut se sentir rejeté en tant que mari. Donc, il y a un problème dans la relation. On a un contentieux qui doit être réglé, un problème. Et donc, l'offense engage au moins deux personnes. Et c'est une rupture partielle, mais qui peut être définitive de la relation. Attention, il y a des problèmes qui sont graves, puis il y a des problèmes qu'on peut régler. Troisièmement, l'offense est une cause de scandale. Scandale, je veux dire, c'est un fait révoltant, un mauvais exemple. Le scandale est un obstacle. Une pierre d'achoppement, si vous voulez. Ça vous rappelle le verset du Seigneur qui dit « Si quelqu'un est un pierre d'achoppement pour un de ses petits, c'est donc quelque chose qui fait tomber. On scandalise un enfant lorsqu'on méprise sa condition d'enfant. » Mais on peut le faire, ça, avec des paroles très religieuses, hein, très convenu. Donc, l'offense, on pourrait parler de chute. Et la chute, on peut dire aussi, c'est une rupture. Quatrièmement, l'offense, c'est un péché. Alors, pas pour les gens du monde. Vous comprenez bien que nous sommes entre frères et sœurs, enfants de Dieu ici. Mais l'offense, tout le monde la connaît, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Mais nous, en tant que chrétiens, on est intéressés de savoir jusqu'où va mon offense ou notre offense. Et d'abord, l'offense, et c'est vraiment le premier point sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est ce péché contre Dieu. Alors, il y a différents termes utilisés dans la parole. Il y a pour désigner l'offense, la faute, l'injustice, l'iniquité, la transgression, la révolte, l'erreur. Voilà. Ça dépend. C'est dans la relation à Dieu ou dans la relation entre personnes. Mais l'offense est une dette, et on l'a lu tout à l'heure. Remets-nous nos dettes. Donc cette offense est une injustice, une faute, un crime qui entraîne l'existence d'un passif. Comprenez-moi bien, c'est une dette. Il y a l'offenseur qui devient le débiteur. Et dans le Nouveau Testament, on voit souvent ce symbole de la dette qui était devenu la désignation courante du péché contre Dieu. L'offense, dans ce sens-là, est un péché qui crée un contentieux. Alors, écrivez ça comme vous voulez. Hein. Contentieux ou contentieux. qu'il faut régler. On a un problème avec Dieu. Notre problème, c'est que Dieu est Dieu, souverain. Il a dit quelque chose. Le jour où tu en mangeras, tu pécheras. Et nous, on s'est tous retrouvés dans ce contentieux. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et s'est étendu à tous les hommes. Je vais vous prendre une image, parce que je connais quelqu'un qui dit « Mais ça, c'est pas juste. Comment est-ce que moi, j'ai pas décidé de pécher ? C'est, si Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que j'y peux, moi ?» C'est un peu comme conduire un autobus, être dans un autobus. Vous êtes dans un autobus, le chauffeur fait une bêtise, conduit mal, et les dégâts collatéraux sont immenses. Vous en subissez, vous subissez les dégâts du chauffeur, enfin les conséquences de la faute du chauffeur. Et nous, nous sommes devenus coupables. Nous avons des comptes à rendre. Nous avons besoin de comprendre que nous devons régler des problèmes. Regardez maintenant Matthieu 18, si vous voulez bien. Et c'est tellement important pour le Seigneur, ce problème de du pardon, qu'il en donne une parabole. À la suite de la question de Pierre, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Matthieu 18. On va quand même le lire, c'est la parole de Dieu. Et on va lire, même si on connaît bien l'histoire. Et on va la lire, peut-être en s'arrêtant quelquefois. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Un jour, il y aura des comptes. Et pour nous aussi, il y aura des comptes. Et cet homme, alors, je ne veux pas faire une étude sur ce passage, je voulais simplement dire, il a une dette d'une vie. Autant vous dire qu'il ne peut pas, incapable de réparer ça. Il est coupable. Et comme il n'avait pas de quoi payer, verset 25, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui, qui encore ? Sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait. On n'est jamais seul. Vous péchez, il y a des dégâts collatéraux, la famille va trinquer. Vous divorcez, c'est les enfants qui pâtissent. Et le couple aussi, évidemment. Et l'un et l'autre. Et toute l'assemblée. C'est dramatique. On continue. Et que le paiement fut fait. Et l'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage. C'est-à-dire le reconnaît. Rendit hommage, c'est vraiment... On rendait hommage au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu. Donc là, c'est quand même très important. Disant, Seigneur, use de patience envers moi, je te paierai tout. C'est non. Il ne pouvait pas. C'est impossible. Si quelqu'un pense qu'il est capable de se justifier devant Dieu, ça va être, c'est impossible. Il faut qu'il y renonce à toujours, nous dit la parole. Et lui, il se persuade de quelque chose. C'est une fausse croyance. On ne peut pas. Verset 27. Et le Seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. C'est-à-dire, tu ne me dois plus rien. Imaginez cet homme. Il est là, sous la contrainte de payer, et puis tout à coup, il trouve son maître, son roi, qui lui remet une vie de dette. Imaginez-le. Il est en train de danser. Il est en train de chanter tout ce qu'il peut et de louer ce maître qui a un cœur de compassion, c'est-à-dire qui souffre avec. Mais cet esclave étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui et qui lui devait 100 deniers, 50 euros quoi. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant, paye si tu dois quelque chose. Le problème était le même, c'est pas la somme. Mais le problème était le même. Et quel était le problème de ce... Qu'est-ce qui s'est passé chez cet esclave-là qui reçoit la délivrance et qui ne veut pas délivrer ou remettre. Délier, en fait. C'est ça le mot. Cet esclave est lié à son maître par une dette et il ne délie pas son propre copain qui lui doit 30 balles, quoi. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui s'est pas passé? À votre avis, entre le verset 27, là, 27 et 28, qu'est-ce qui s'est pas passé pour l'esclave? Il n'a pas été touché dans son cœur. Il a reçu le cadeau, mais lui-même, il n'a pas été touché dans son cœur. La compassion du roi ne l'a pas atteint dans ses émotions. Il n'a pas pleuré en disant « je suis indigne ». Et ça dépasse tout ce que je peux comprendre. Il n'a pas été touché dans ses compassions, dans son cœur, ému de compassion comme son maître. Il ne l'a pas été. Et c'est ça. Là, on est attendu au tournant. Et on va aller un peu plus loin. Verset 29. Et celui donc qui était assis, qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant, « Use de patience envers moi, je te paierai. » Et il ne voulut pas. Mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Et ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, et lui dit, « Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette parce que tu me l'as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui était esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ?» Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout et payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi, mon Père céleste vous fera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère. Et là, on est attendu au tournant. Tous les dimanches, on bénit Dieu, on loue le Seigneur, on se souvient de ce que ça a coûté au Seigneur, de remettre notre dette. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas touché. Si on était touché au plus profond, de ce que mon offense, en préparant cette rencontre-là, j'ai terriblement eu conscience de mon péché. J'ai péché contre Dieu. et il m'a remis ma dette. Pas celle d'il y a seulement d'il y a 30 ans, mais celle de la semaine dernière. Quand les clous ont percé les mains du Seigneur, ma dette était là. C'était injuste qu'on pèche contre Dieu. Et une injustice doit être, aidez-moi, sanctionnée. C'est une dette. C'est une dette. Vous savez, les prisonniers romains, ceux qui étaient prisonniers, ils étaient jugés, mis en prison, et devant la cellule, semble-t-il, il y avait une inscription en disant « Il doit faire 15 ans de prison, 5 ans de prison, voilà. » Mais quand il avait fait sa sentence, on écrivait dessus « Tetelestai », qui veut dire « C'est accompli ». Ça vous rappelle quelque chose ? C'est accompli. Et le Seigneur Jésus-Christ a crié « Tetelestai, c'est accompli !» Et chaque clou, enfin chaque péché qui a été enfoncé par les clous, les mes péchés, le Seigneur dit « Tetelestai, c'est accompli !» La dette n'est plus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il a pris. Et Rome, 2 Corinthiens 5, regardez ce verset absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que le monde ne peut pas comprendre ce qu'est le pardon en vérité. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, on va le lire, mais tout doucement. Verset 18. Toutes choses sont faites nouvelles. Verset. Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. C'est Dieu qui est venu nous chercher. C'est lui qui a remis notre dette. Je ne dois plus rien. Et pourtant, je n'ai pas toujours ce sentiment. Par Christ. Verset 19. Car il faut savoir que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes. Pourquoi il ne nous a pas imputé nos fautes ? Parce que c'est Christ qui a été. Et je vous dis des choses que vous connaissez, c'est sûr ça. Mais je voudrais que notre cœur soit sensible. Sensible à notre péché et la douleur. C'est pas n'importe qui est venu sur la croix. C'est pas juste un homme. C'est l'homme. C'est le Christ, c'est-à-dire le Messie. C'est lui seul qui pouvait être notre racheteur. Une dette a toujours un prix. Alors, vous avez vu entre Matthieu 6 et puis Matthieu 18, là, il y a quelque chose de similaire qui nous dérange. Si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, notre Père ne nous pardonnera pas. Et nous, on aime bien l'assurance du salut. Ça nous pose problème. Mais je vais vous proposer cela. C'est sûr qu'on ne gagne pas le ciel en accordant le pardon. Mais est-ce que peut-être un esprit de non-pardon et une volonté de refuser de pardonner, est-ce que cela peut être un signe que nous n'avons jamais goûté au pardon de Dieu pour nous-mêmes ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Ça pose des questions. Je ne veux pas pardonner, je ne peux pas pardonner et je ne veux pas pardonner. Mais j'entends ça tout le temps. Tout le temps. J'ai dit, t'es un enfant de Dieu ? Oui, je suis un enfant de Dieu. Bon, laisse-moi douter. C'est pas parce que tu me dis que t'es un enfant de Dieu que tu l'es. reconnaît l'arbre à quoi? Et c'est quoi le fruit? C'est le pardon. Si nous réalisons combien de quoi nous avons été déliés par le sang de Jésus-Christ, déliés, quelle est notre dette? Mais finalement, mais qui prenne tout? Et l'apôtre Paul le dit bien. Vous avez des procès entre vous, dit-il aux Corinthiens, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi vous ne vous laissez pas faire tort? On est là 80 ans sur la terre et après on part, mais ça rime à quoi? Ça n'a pas de sens. C'est assez intéressant quand même de voir que ce que Dieu a produit en nous, il veut que nous le produisions auprès de nos proches et avec ceux avec lesquels nous vivons. Ce que je suis en train de dire, c'est que le pardon, c'est une nécessité. Je l'ai dit tout à l'heure, ça se place sur un plan spirituel. On n'a pas conscience que si nous ne pardonnons pas, on laisse une porte d'accès. C'est pas une porte d'accès, c'est une autoroute qu'on laisse à Satan. 2 Corinthiens chapitre 2. Je vais vous le dire. 2 Corinthiens chapitre 2. Il est parlé du pardon et l'apôtre Paul dit dans un autre contexte, n'est-ce pas, j'ai pardonné. Et il enjoint les Corinthiens à pardonner aussi. Verset 11. Afin que, c'est-à-dire dans le but que, dans cette perspective, que nous ne soyons pas troublés par Satan. C'est une réalité, ça. Et on ne l'imagine pas. Est-ce que vous connaissez les desseins de Satan pour la famille? Sa destruction. Le couple, sa destruction. On n'y fait pas trop attention. On pense que c'est juste une histoire de tempérament, de différence. Non, c'est bien plus grave. C'est bien plus grave. Les desseins, car nous n'ignorons pas ces desseins. Vous connaissez le dessein de Satan pour l'assemblée ici? La destruction. Et comment il va faire? Sa stratégie? Mettre la pagaille, le non-pardon. S'il y a eu blessure, il faut qu'il y ait pardon. Et tant qu'une blessure est ouverte et continue, eh bien, il y a toujours la possibilité que ça explose. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le pardon n'est pas juste pour régler une question d'injustice. C'est un acte qui nous dépasse bien plus grand et dont les conséquences nous dépassent. Et on ne les voit pas toujours. On ne s'imagine pas les conséquences de nos actes ou de ou des actes que nous ne faisons pas, comme le non-pardon. Mais quand on décide de pardonner, je vais en parler dans un instant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer le sens des forces du mal. Et ça va réorienter les forces de destruction pour aller vers la vie. Le pardon, c'est ça que ça produit. Pourquoi je pardonne? Parce que quand je pardonne, je reconnais que moi, mes péchés, ils ont dû être portés par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est une reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi. Et l'apôtre Pierre dit quelque part, n'oubliez pas vos péchés d'autrefois. N'est-ce pas? Il dit pas ça. Quelqu'un va m'aider. Je pense que c'est dans 2 Pierre. Voilà, 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Car celui qui, en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. Je ne suis pas toujours à regarder dans le rétroviseur et de me frapper la poitrine. Quand Christ est mort pour moi, le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Mais quelque part, je dois me souvenir de la douleur que ça a infligée au Seigneur. Rappelez-vous, c'est le Seigneur de gloire. Il n'y en avait pas deux qui pouvaient le faire. Donc je reconnais l'œuvre de Dieu pour moi. C'est Éphésiens chapitre 4. Vous connaissez bien ces passages. Comme verset 30 ou 31. Pardon, 32. Vous pardonnant les uns aux autres, comme au Dieu aussi, comme de la même manière que vous avez été pardonné. Et c'est ça qu'il n'avait pas compris, cet esclave-là. Pourquoi ? Parce que son cœur, voilà, c'est mon interprétation, son cœur n'avait pas été sensibilisé à la compassion et n'a pas été touché au plus profond de son cœur. Comme Dieu vous a pardonné. Laissez-moi vous parler un petit peu des sentiments de Dieu. Il y a une colère de Dieu. Cette colère, elle est pour qui, cette colère? C'est pas forcément pour les incrédules. C'est pour tous ceux qui vivent. Romains chapitre 2, verset 18. « Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété, toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. » Mais moi, je me suis reconnu là-dedans. Je connais beaucoup de choses de la parole de Dieu que j'enfreins. Et cette colère de Dieu, elle est tombée sur celui qui était le juste. Regardez Philippiens chapitre 2, on parle du cœur de Dieu. Et c'est à ça que je voudrais vous amener ce soir. S'il y a quelque consolation en Christ, une consolation, quelque soulagement d'amour. C'est ce que le roi a montré à l'esclave. Et nous, il faut qu'on le discerne, cela. Si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse, quelque compassion, ça suffit, on va s'arrêter là. Ça, c'est le cœur de Dieu. Si on a trouvé cela, alors on va l'exprimer à celui ou à celle ou à ceux qui nous marchent sur les doigts de pied. Trois fois rien. Par rapport à ma dette. Ainsi, ce point-là, le pardon, c'est juste reconnaître, j'en ai eu besoin. Notre point, c'est, vous savez, on voudrait vite arranger les relations. On dit, non, c'est pas grave, et puis le temps va effacer. Non, le temps va jamais effacer. Quand il y a une injustice, vous vous en souvenez pour toujours. Les jeunes, vous avez déjà pris un râteau une fois? Vous savez ce que c'est qu'un râteau, hein? En France, on dit un râteau, c'est quand on s'est fait larguer par une copine ou un copain, quoi. C'est une blessure profonde. Si vous pensez que le temps va effacer ça, vous vous trompez. Ça ne s'efface pas. Il n'y a qu'une chose qui va peut-être atténuer, soigner la douleur et la blessure, c'est le pardon. Si vous pensez que vous allez... Non, je veux plus y penser. Cette expression-là. Non, n'y pensons plus. Ça marche pas. J'étais une fois dans le train, puis je parlais avec une jeune femme de 25 ans, avec son petit garçon de 2 ans, là. Et puis, bon, elle parlait. Et puis, elle me disait, oh, de toute façon, nous, on était deux sœurs à la maison. Ma sœur était très belle. Très, 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 très belle. Très claire, comme ça. Puis moi, vous voyez, je suis quelconque. De toute façon, mon père m'a toujours dit qu'il m'avait trouvé dans une poubelle. Blessure. Ça, c'est un abus. Un abus de parole. C'est une injustice. C'est une injustice. Ça doit être puni par la loi, or. Et puis après, elle raconte sa vie. Et puis, elle me dit que elle avait été l'amant d'un homme d'affaires. Et elle a cru que ces paroles, les bonnes paroles de l'homme d'affaires, qui lui dit « Oui, je vais divorcer, puis je vais me marier avec toi, et puis... » Et finalement, elle avait un enfant. Elle a attendu un enfant qu'elle a avorté. Et elle me dit « Oh non, c'est fini, ça. » J'ai dit « C'est fini, parlons-en. » Elle dit « Vous n'y pensez plus du tout ?» Elle me dit « Si, chaque fois que je vois l'enfant, un enfant... de son âge, ou l'âge qu'il aurait dû avoir. J'y pense. L'oubli, c'est pas le pardon. Il faut que ça soit soigné. C'est une injustice. Et il faut qu'il y ait... Alors évidemment, quand Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés », c'est pas qu'il ne se souviendra pas. Dieu est omniscient. Est-ce qu'il peut être frappé d'amnésie ? Non, pas du tout. Ce qu'il veut dire, c'est que je me servirai plus de tes péchés contre toi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été portés à la croix. Ça, c'est extraordinaire. Un autre point, c'est que le pardon, c'est un choix. C'est un choix. Et là, notre volonté passe par une phase critique. Dis non, impossible de pardonner. Mais Dieu ne vous demande pas si vous voulez pardonner. Il vous demande de pardonner. Et s'il nous demande de pardonner, nous sommes capables de pardonner. C'est possible. Et pourquoi c'est très possible ? Parce que Christ habite en vous. Il est la puissance de vie dans votre propre existence. C'est un choix. Le pardon, c'est difficile, j'en conviens bien. C'est difficile et je l'ai dit tout à l'heure, c'est un chemin, c'est un trajet. J'ai accompagné un couple. Et puis, les deux premières fois, trois premières séances, je ne voyais pas trop où aller. Et puis, vous savez, quand on accompagne des couples, là, on est là, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'ils nous disent, en fait, si c'est juste, si c'est faux. Enfin, on entend tout, mais on ne sait pas très bien. Je ne sais pas. Moi, Je pratique ça et je dis, Seigneur, tout en regardant les gens, évidemment, hein, comme là, je dis, Seigneur, aide-moi, comment tu vois les choses, comment tu fais, montre-moi. Et tout à coup, je lui dis à ce couple, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Pourtant, ils sont venus me voir. Donc, il y a bien un problème. Mais le problème qu'ils disaient, ce n'était pas le problème, évidemment. Rarement le problème. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et tout à coup, dans les deux minutes, là, pouf, il y a un adultère qui est sorti. Sa femme m'a dit, et ce numéro de téléphone, là, ce que j'ai vu sur ton téléphone, là. Et là, il a confessé qu'il avait commis l'adultère. Alors bon, la femme elle prend ça en pleine figure, et puis on travaille un petit peu ça, ils partent, on donne rendez-vous, et puis, ils reviennent, la séance suivante, et là, la femme, elle pleure. J'ai dit, madame, vous avez l'air de souffrir. Elle dit, vous imaginez, c'est pas une fois avec une femme, c'est pendant 4 ans avec 1000 femmes. Et là, elle n'en pouvait plus, quoi. À un moment donné, on a travaillé, et puis à un moment donné, je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez faire, vous, avec ça ? La blessure est tellement grande. Qu'est-ce que vous allez faire ? Elle dit, ne vous précipitez pas à pardonner. Surtout pas. Prenez votre temps. Il faut parler les choses, il faut écrire la souffrance, il faut que vous que votre colère puisse être exprimée. C'est une trahison, c'est une profonde injustice qui doit être jugée. J'ai dit, mais vous pourriez ne pas pardonner. Vous savez, il faut aller doucement. Si moi je l'avais demandé de « Il faut maintenant pardonner parce que vous êtes enfant de Dieu. » Ça aurait été quoi? Un autre abus. Mais finalement, lui laissant la liberté, il dit « Prenez votre temps. » Mais vous savez qu'à la fin, on va se retrouver à la croix. Hein. Votre propre péché et le péché de votre mari. Et j'étais, lui laissant ainsi la liberté, j'étais étonné de voir que, à un moment donné, elle dit, je choisis de lui pardonner et je choisis de rester. C'est trop fort. C'est un choix. Le pardon est un choix. Mais nous, on dit, mais c'est trop difficile. On a la volonté. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la justice. Oh là, c'est déjà 9h. Vous m'accordez encore un petit quart d'heure. Le pardon, c'est pas inné, je l'ai dit tout à l'heure, mais se justifier soi-même, ça c'est chez nous là, ça c'est dans nos gènes. Et on a envie de se venger de cette injustice. On a envie de régler cette injustice par nous-mêmes. Nous réclamons vengeance pour les offenses subies. Mais l'apôtre Paul nous dit, ne vous vengez pas vous-même. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez... On va lire ça ensemble. Verset 19. Romains 12, 19. Mais laissez agir la colère. Intéressant ça. On a le droit d'être en colère. C'est normal que je sois en colère. Pourquoi ? Parce que jamais on n'aurait dû me faire ça. C'est une profonde injustice. Mais l'apôtre dit, non, attention, tu peux bien ressentir la colère, il faut que tu ressentes la colère. Mettez-vous en colère, mais attention, ne vous trompez pas de cible. Il nous dit, laisse-moi, dit Dieu, laisse-moi agir, moi je vais juger justement. Mais je vais m'en occuper. Toi, tu dois choisir de pardonner. Oui, mais qu'est-ce que est-ce que je devrais laisser pourquoi devrais-je laisser ceux qui me font du tort? Eh bien, c'est là le problème. Nous pensons que en ne pardonnant pas, c'est-à-dire en gardant l'idée de la vengeance, nous tenons les gens. Et vous tenez rien du tout, hein? Rien du tout. C'est encore eux qui vous tiennent. C'est vous qui vous restez, qui restez attachés, liés à eux. Ils vous font le mal deux fois. Un, par l'abus. Deux, par le fait que vous restez liés. Et Dieu dit non. Pardonne. En pardonnant, tu le délies. Et toi, tu es libre. Ça va? C'est compréhensible, ça? Mais c'est difficile, hein? C'est difficile de laisser aller en paix quelqu'un qui vous a fait du tort. Pourquoi c'est difficile? Ça nous pose une autre question bien plus profonde. Est-ce que j'ai vraiment confiance en Dieu? La Bible dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur. Moi je rendrai, dit le Seigneur. Et nous, on a du mal à croire ça. Donc on se venge. Donc on le tient. En fait, on ne tient rien. Pour les anciens, les jeunes, vous n'étiez pas là encore. Mais quand l'équipe de France a eu le mondial en 98, ça date, hein, vous avez vu à la télévision, vous avez vu à la fin du match, l'équipe qui allait vers les estrades, là, vers les gradins, recevoir la coupe du président de la République, Et puis, il y avait Aimé Jacquet qui était le coach, l'entraîneur, là, et sur lequel on avait cassé du sucre. On lui avait dit des méchancetés, on avait écrit. Et donc, il y avait un journaliste avec la caméra. Monsieur Jacquet, est-ce que vous pardonnez à ceux qui ont crié tellement de méchanceté contre vous? Et lui, il a dit, jamais! Pauvre Jacquet. Pourquoi? Parce que lui, il est resté avec son amertume. Il est resté lié à ceux qui lui ont fait des offenses. Mais les autres, il n'a rien compris. Il aurait dit, bien sûr, parce que je veux être libre. C'était juste une image pour vous dire que Dieu nous demande de pardonner parce que Dieu prend soin de nous et veut notre liberté. Comment mettre fin à la souffrance ou à cette souffrance? Eh bien, c'est de nous délier de cette personne en remettant la dette. Quand vous pardonnez à quelqu'un, c'est d'abord dans votre intérêt que vous le faites. Pour être libre. Pour être libre. Donc, la nécessité de pardonner ne concerne pas l'offenseur. Lui, il a son problème à faire, n'est-ce pas? Mais il n'a peut-être pas conscience aussi de l'offense. Mais nous, on parle de nous quand on nous a offensés. La nécessité de pardonner nous concerne, nous et Dieu. Remettre la dette à celui qui m'a fait du mal, c'est vrai. Il me doit quelque chose et il ne peut pas payer, ne peut pas rembourser, ne peut pas réparer. Et selon nous, c'est vrai, c'est une injustice. Mais regardez, Dieu en Christ ne nous a pas imputé notre péché. Donc je vais laisser mon Père Céleste s'occuper de l'offenseur. Et je lui demande de me réparer et de guérir ma blessure. Je voudrais dire encore que pardonner, là je vais dire quelque chose de très difficile. Pardonner, c'est accepter de vivre avec le péché de l'autre dans ma vie. On a une famille dans notre assemblée à Mulhouse. 4 garçons, l'aîné aimait beaucoup rouler en voiture avec un copain un samedi après-midi avant d'aller au groupe de jeunes. Il va avec un copain dans les Vosges pour rouler, comme chez nous on dit, à fond de caisse. Et Étienne était à droite, son copain conduisait, et puis ils ont raté un virage. Ils sont rentrés dans un arbre et Étienne a été tué sur le coup. Moi, j'étais en train de parler. À 8 heures du soir, je reçois un coup de téléphone. J'étais à Puyi, à côté de Lausanne, dans une réunion. Et là, à 8h05, j'entends une voix, un sanglot. C'était un jeune qui me téléphone. Il dit, mon meilleur copain s'est tué cet après-midi. Voilà. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que ce couple-là, Brigitte et Michel, sont allés voir, après certains temps, sont allés voir le garçon, le chauffeur, qui est maintenant hémiplégique. Et ils sont venus le voir et lui ont dit, nous te délions de ta dette. Lui, il n'a rien compris. Mais eux, ils savaient pourquoi ils le faisaient. Sauf que ça n'a pas ramené leur garçon. Jusqu'à aujourd'hui, tous les mois de novembre, ça pleure. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pardonner, c'est accepter de vivre avec le péché de l'autre dans nos vies. Et la grâce de Dieu nous le permet. Alors, d'une façon un petit peu froide, je peux dire, de toute façon, on va toujours vivre avec les conséquences du péché de l'autre. Oui, mais on pourrait le vivre avec les conséquences du péché de l'autre, avec amertume, et l'amertume va m'enterrer. Ou bien, je vis avec les conséquences du péché de l'autre, mais en ayant pardonné d'une manière authentique, Et je pense que celui qui n'a pas péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous, nous devenions justice de Dieu en lui. Il a porté les conséquences de mes péchés. Ainsi, la croix rend le pardon légal et moral. Alors, le côté pratique des choses. Nous tous, on est concernés. Si vous demandez, Seigneur, rappelle-moi quelqu'un que j'ai peut-être oublié ou auquel je ne veux pas penser, rappelle-moi quelqu'un qui m'a offensé et que je n'ai pas pardonné. Il va le faire. Il va le faire. Et il faut faire cette prière pour que les choses soient à plat, soient claires. Il faut absolument admettre l'injustice qu'on vous a fait dans votre vie. Un vol, une parole, un dénigrement. Enfin, voilà. Toutes ces injustices sont des dettes qui demandent réparation. Normalement, la justice devrait statuer sur votre cas. On l'a vu. Mais ce que je suis en train de dire, vous avez le droit de dire cela et vous avez besoin de le dire. Je suis en colère parce qu'on ne m'a pas respecté. Et si votre pardon ne rencontre pas vos émotions, votre tristesse profonde, votre colère, eh bien, probablement, ça sera un pardon bon marché, superficiel, probablement incomplet. Je vais vous proposer deux questions que vous pourriez vous poser. Quand vous vous souvenez de quelqu'un qui vous a offensé, écrivez l'acte d'accusation. Qu'est-ce qui m'a fait, vraiment? Pourquoi? C'est pas pourquoi, dans quel... Non, c'est... Oui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Quel est l'acte d'injustice qu'il a commis sur moi, vis-à-vis de moi? Il m'a fait cela. Elle agit d'une manière vis-à-vis de moi de façon indigne. Ou bien mon père, comme l'exemple tout à l'heure, mon père a préféré ma sœur. Ou bien il ou elle m'a volé mon enfance. Enfin, toutes sortes de choses. Et il faut l'écrire, il faut le dire. Sinon, vous allez demander un pardon pour en général. Et ça ne marche pas. Il faut que le pardon soit précis. Et autant de personnes ou autant d'actes d'injustice, autant de choses qu'il faut écrire, c'est un travail difficile et long. Mais à moins que vous ne le fassiez, votre pardon, j'ai bien peur qu'il reste superficiel. Il faut nommer l'acte d'accusation que vous portez contre la personne. La deuxième question est un peu plus difficile. Quelle sanction devrait être... Répondez à cette question. Quelle sanction devrait être infligée pour cette personne ou à cette personne dans cette injustice-là? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et on ne le fait jamais, ça. Et puis, vous allez comprendre que, finalement, toutes les accusations que vous avez contre la personne, ça peut être retourné par rapport à nous. Vous allez comprendre que tout ce travail, c'est pour bien assimiler que l'injustice qui a été faite, moi-même j'ai fait des injustices vis-à-vis de Dieu qui ont coûté la vie au Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question là? Si vous vous posez la question, ça mérite réparation. Nommer la sanction qui devrait justifier ou réparer l'injustice. Et vous allez dire, c'est ça qu'il aurait dû payer. 5 ans de prison pour un abus, 10 ans de prison pour un abus. Vous savez que les personnes abusées ne peuvent pas guérir tant que ce n'est pas passé au tribunal. Eh bien, nous, on a ce travail à faire. Et quand vous dites, voilà, il aurait dû payer ceci et cela, vous allez comprendre que Christ a payé pour vous et pour elle. Christ est mort pour les péchés du monde entier. Bien sûr, il y a la foi qu'il faut pour avoir le pardon, vous comprenez ? Mais le péché a été porté. Voilà. Il y a encore plusieurs choses, mais l'heure est passée, là.
Tu pourrais donner un exemple de ce que tu viens de dire ?
Je viens de dire que si vous restez dans le vague par rapport à l'acte d'accusation, vous dites, oui, il m'a fait du mal, mais voilà, c'est vague. Pour être guéri, il faut absolument décrire l'acte d'accusation. J'ai été renvoyé de mon travail de façon injuste. C'était pas juste. Je n'ai pas été payé correctement. Ils m'ont renvoyé d'une façon injuste. Ma femme a vécu ça. Et ça l'a mise dans une colère pendant des mois. Jusqu'à ce qu'elle l'écrive et qu'elle parle de la punition que son proviseur aurait dû avoir pour l'avoir maltraité. C'était injuste qu'on la maltraite. Et moi, à la maison, j'en subissais tous les... et donc, écrire la punition, c'est aussi comprendre que moi, dans mon cas, je mérite aussi une punition. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. De ne pas minimiser les choses. Ma sœur ?
Je mérite aussi la punition, je comprends. Mais comment faire si après avoir écrit, après avoir pardonné, on ne peut pas s'éloigner physiquement de la personne, on doit continuer, et la personne recommence, et on doit vivre quand on est un enfant, par exemple.
J'ai bien dit, c'était un trajet. Donc, c'est un cheminement. Et là, moi, j'ai peur de donner une réponse qui soit un peu rigide et figée. Il y a des circonstances où, à un moment donné, le mieux que je dirais, c'est d'être accompagné. Il faut sortir de la solitude. Il faut pouvoir parler à quelqu'un. Et les frères et sœurs dans l'Église sont là pour ça. Je ne sais pas si j'ai une réponse pour vous. Mais c'est au quotidien, ça va être... Je ne doute pas. Parce que le Seigneur l'a dit, je te conduirai dans le chemin dans lequel tu devras marcher. Je ne peux pas vous dire que j'ai une réponse. Mais parfois, il y a des situations qui changent rapidement. On a tout à gagner à remettre à Dieu toute cette situation parce que nous sommes nous, ses enfants, au centre de ses préoccupations. L'amour que Dieu a pour nous, on n'a pas idée, quoi. Nous sommes dans sa faveur. Et vous, ma sœur, vous êtes dans la faveur de Dieu. La prunelle de ses yeux, vous acceptez ça ? Même dans vos circonstances difficiles. Je ne voulais pas faire une réponse à bon marché. Qui ce soir, si je prie là maintenant, et le Seigneur m'entend toujours, pourquoi ? Je peux dire ça avec assurance. Parce qu'il est mon Père. C'est tout. Mais si nous demandons au Seigneur, là, rappelle-nous des noms de personnes qui m'ont fait du mal et que j'ai mis de côté et que je n'ai pas pardonné, il va le faire. Après, votre responsabilité, c'est de décider de pardonner. Dans votre prière, ne dites pas « Seigneur, je veux pardonner ». Non, 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 non. Il ne demande pas si vous voulez. Faites-le. C'est comme au culte. « Seigneur, nous voulons te louer ». Non, nous t'adorons. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression des fois que quand on dit « je veux pardonner », c'est que finalement on n'a pas envie, quoi. Enlevez ce vocabulaire. Dites « Seigneur, je décide de pardonner. Je décide de faire ce chemin. Je comprends que tu veux ma liberté entière. Et que tu veux que je sois disponible pour toi. » C'est quoi pardonner de tout son cœur? Ça serait quoi une personne qui a pardonné de tout son cœur, à votre avis? Libéré? Libéré de quoi?
Du ressentiment.
Du ressentiment. Quelqu'un d'autre? Libéré de quoi? Elle peut regarder la personne, peut être à côté de la personne. Elle n'est pas obligée, hein?
De la honte.
Elle n'est pas obligée de... C'est compréhensible. Elle m'a fait mal une fois, je ne suis pas obligé de... Eh ben, ma confiance sera quand même un petit peu... Je peux pardonner sans avoir tout à fait confiance en elle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On a eu un problème une fois avec... dans notre travail. On a pardonné tout ça, mais non, on ne voulait plus travailler avec. C'est quoi une personne qui est pardonnée de tout son cœur? Elle ressemblerait à quoi? On a parlé.
Comme si l'offense n'avait jamais eu lieu.
Comme si l'offense n'avait jamais eu lieu. C'est exactement pour nous la même chose. C'est qu'on est tout propre. La même chose. C'est ça. Et donc je peux la voir. C'est plus de ressenti. Maintenant. Je vais terminer avec ça, sur le chemin. C'est un chemin. Quand vous décidez de pardonner, si ce soir vous décidez de pardonner, ça va prendre probablement du temps. C'est un processus, un peu comme la conversion en fait. Vous vous convertissez, vous acceptez le Seigneur dans votre vie, mais la conversion c'est beaucoup plus que de signer un registre ou bien signer une carte de décision. C'est une vie. Le pardon, c'est la même chose. Vous décidez de pardonner telle personne. Et le lendemain matin, le diable va venir et dire « Ah, ton petit pardon, là, ça tient pas. Tu vois, tu ressens encore des quelque chose, là. Ah oui, mais j'ai pardonné. » Et si vous le faites devant témoins, c'est encore plus fort. Servez-vous des frères et sœurs de l'Église pour être des témoins ici et maintenant dans votre vie. C'est très biblique, ça. Malheur à celui qui est seul. Parle pas. La Bible, là, dans ce verset, ne parle pas forcément de célibataire. Et celui qui reste seul. Mais si vous voyez, dans Jacques, il est dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, le témoin est très important. Et donc, dit oui, je confirme que tu as pardonné. Mais après, ça peut prendre encore un peu de temps. Vous renouvelez le pardon. Vous réactivez le pardon autant de fois qu'il est nécessaire. Combien de fois? 70 fois. 7 fois, si c'est nécessaire. Vous réactivez. Et puis, à un moment donné, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant en vous, va faire sortir tout le pus. L'amertume, tout va... Puis finalement, votre cicatrice, votre blessure, elle sera clean. Il y en aura une, hein, cicatrice. On n'efface pas l'histoire. Mais elle fera plus mal. Vous pourrez être à côté de la personne. Vous pourrez prier pour la personne. Et moi, je dirais maintenant, un troisième point, c'est, est-ce que vous pouvez bénir la personne? Bénir, c'est quoi bénir? C'est amener du bien sur la personne. Là, vous savez que vous avez pardonné. Bénir la personne. On s'arrête là. Merci notre Père pour le grand pardon que tu nous offres parce que tu nous as remis la dette. Merci notre Père pour ta grâce. Père, s'il te plaît, accorde-nous ton cœur de compassion, de telle manière que ce qu'on nous a fait, nous puissions avoir la même attitude que tu as eue à notre égard. Merci pour ta bonté, ta grâce envers nous. Il n'aurait été que juste que nous soyons condamnés, mais ta miséricorde nous a pardonnés et ta grâce nous amène même dans cette relation d'enfant à père. Tu connais nos vies, tu connais nos familles, tu connais nos couples, tu connais nos églises. Nous nous courbons devant toi avec humilité, notre Dieu, dans la repentance, en te disant nous avons péché contre toi en ne pardonnant pas. Et nous prions, Père, que tu nous donnes de t'imiter en accordant le pardon à ceux qui nous ont offensés. Provoque en nous, dans nos propres vies, un réveil. Dans nos propres familles, un réveil. Dans nos vies de couple, un réveil. Dans nos églises, un réveil. Notre Père, nous te supplions. Aie pitié de nous. Merci pour ta bonté, ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, celui que tu nous as donné, et son nom est puissant, et son nom est bien connu dans les cieux. Il est au-dessus de toute autorité et de toute puissance. Père, nous nous courbons devant toi en te bénissant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.